Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Et l'info cette semaine, c'est avec Agnès Bonfillon jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une nouvelle plainte contre Buitoni, elle concerne cette fois une autre gamme de pizzas surgelées. Le chiffre est impressionnant, ce sont désormais 130 enquêtes ouvertes pour des piqûres faites sur des jeunes en boîte de nuit. Gérald Darmanin candidat, Éric Dupond-Moretti finalement pas, Bruno Le Maire lui s'arrête à 3 mandats. Les ministres et les législatives, vous l'entendrez, tout le monde n'y va pas les yeux fermés.
Nos deux focus du jour, les salariés donc qui n'ont pas le moral et qui se plaignent de leur entreprise. Faut-il réformer tout cela? Faut-il démissionner? Faut-il se reconvertir? Ce sera un de nos sujets. Et puis le panier RTL qui n'a jamais été aussi cher, les prix s'emballent à l'image de nos chariots respectifs.
Et justement, la question du jour sur RTL.fr, panier RTL en hausse, limitez-vous vos achats? Vous dites oui à 65%, non à 30%. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
Eh bien, c'est pluvieux à l'est.
Exactement, surtout entre l'Alsace, la région PACA, avec des coups de tonnerre possibles vers les Alpes-Maritimes cet après-midi, des pluies soutenues en Corse également. Entre les Pyrénées, le Massif central et la Lorraine, là, il reste juste quelques averses. Et puis, plus on va vers l'ouest, plus le soleil sera présent. C'est bien dégagé d'ailleurs sur la côte atlantique et ça le sera également près de la Manche. Les températures en baisse à l'est sous les pluies, de 15 à 18 degrés jusqu'à 21 ailleurs et 23 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Le scandale Buitoni n'est pas terminé. Nouvelle plainte visant une autre gamme de pizzas. Cette fois, c'est une mère de famille qui est tombée malade à Gatlandais. Et la marque ne réagit pas, ce qui veut dire que les produits sont toujours dans le commerce.
Oui, car il s'agit cette fois de la gamme Bella Napoli de Buitoni et elle ne fait pas l'objet de rappel à ce stade. Pourtant, il y a près d'un mois et demi, une femme de 34 ans a été intoxiquée par la bactérie E. coli après avoir consommé une de ses pizzas. Son avocat, Maître Pierre de Buisson.
Cette pizza a été consommée le 27 mars et 2 jours après, ma cliente a été hospitalisée pendant 6 jours avec des complications graves, des douleurs abdominales atroces, des vomissements importants, des diarrhées extrêmement fortes. Et un mois après, elle est toujours très très fatiguée. Le lien de causalité semble hautement probable et malgré cela, eh bien, la pizza n'a toujours pas été retirée du marché.
Elle et son conjoint ont porté plainte. Hier, ils ont également contacté Buitoni et les autorités de santé pour réclamer le retrait de ces pizzas. 3 semaines après, ils n'ont toujours pas de retour. On ne sait pas encore si cette gamme était produite au même endroit que les pizzas Fresh Up, l'usine de Caudry dans le Nord, fermée depuis un mois, car la préfecture y avait constaté la présence de rongeurs et d'un manque de nettoyage des lignes de production.
Merci pour ces précisions. Agathe Lanté du service Qualité de la Vie.
130 enquêtes sont désormais ouvertes concernant ces fameuses piqûres en boîte de nuit.
Oui, vous savez, ces femmes et ces hommes qui pensent avoir été piqués à leur insu avant d'être pris de vertige, de nausée. Thomas fait partie de ces victimes. Pour lui, c'était samedi dernier à Toulouse. Il répond à Patrick Hisson.
J'ai senti une piqûre vive derrière mon bras gauche. Les premiers symptômes sont arrivés à peu près une heure après. Sueur froide, vomissement. Le bras un petit peu engourdi, donc il m'a duré d'ailleurs jusqu'au lendemain. On est allé aux urgences. Analyse toxicologique, les résultats. Les premiers s'avèrent négatifs. Ceux pour le GHB et tout ça sont encore en cours, quoi. J'étais exactement la 6e personne à venir ce jour-là pour les piqûres. Pendant un bon petit moment, je pense que je vais pas mettre les pieds dans le monde de la nuit, quoi.
Donc 130 enquêtes ouvertes et selon le ministère de l'Intérieur, plus aucune région de France n'est épargnée, Alice Moreno.
Absolument, des plaintes ont été relevées partout en France, essentiellement après des soirées en discothèque, quelques-unes après des concerts ou des festivals. Quant au profil des victimes, elles sont plutôt jeunes, des clients d'établissements de nuit et plus de 80% d'entre elles sont des femmes. Pour un nombre extrêmement limité, la piqûre a été suivie d'une agression sexuelle ou d'un viol. Certaines évoquent des pertes de mémoire et doivent donc subir des examen pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'atteinte sexuelle. Quelques-unes ont également constaté le vol d'effets personnels.
On ne sait toujours pas quel est le produit utilisé.
Oui, pour la majorité des victimes, pas encore de réponse. Effectivement, les analyses urinaires, sanguines ou capillaires sont pour l'essentiel en attente de résultats. Mais de forts soupçons pèsent bien sûr sur l'utilisation de GHB, la drogue du violeur, qui peut causer une perte de mémoire et une désinhibition d'une phrase. D'ailleurs, les autorités indiquent que l'utilisation de ces seringues peut être le résultat d'une vision vigilance accrue sur ce GHB, jusque-là directement versé dans les boissons alcoolisées. Les auteurs changeraient donc de méthode. La grosse difficulté auxquelles sont confrontés les enquêteurs, le GHB disparaît de l'organisme en quelques heures seulement.
Et le mode opératoire, c'est donc une seringue.
Absolument. C'est, les victimes se plaignent d'avoir été victimes d'une piqûre. Elle constate une petite trace, effectivement.
Avec seringue.
Avec seringue. Le ministère de l'Intérieur indique qu'il ne s'agit pas là d'une psychose collective, qu'il y a bien une trace de piqûre.
Merci beaucoup Alice Moreno pour ces précisions. Hier soir, trois personnes sont mortes et un adolescent a lui été grièvement blessé dans une collision sur l'autoroute 1 dans le Pas-de-Calais. Un des deux véhicules roulait à contresens.
Finalement, Éric Dupond-Moretti renonce. Le ministre de la Justice ne sera pas candidat aux législatives de juin. Il avait pourtant annoncé vouloir briguer un mandat de député dans le Nord.
En revanche, Gérald Darmanin, lui, se lance dans une circonscription qu'il connaît bien, la 10e de ce même département, qui comprend la ville de Tourcoing, dont il a été maire. Il a tenu une conférence de presse pour l'annoncer ce matin à Bouzbek.
Moi, il me semble qu'un homme ou une femme politique, lorsqu'il a exercé des fonctions et lorsqu'il veut encore en exercer, doit se présenter devant les électeurs. Les nominations, c'est bien. Les élections, c'est mieux, parce que ce sont les électeurs, le peuple, qui valide, qui choisit, qui donne la légitimité. Je suis surtout là pour porter, ça me paraît légitime, le bilan du président de la République et de contribuer, puisque j'ai eu la chance d'être un des cadres de la majorité pendant 5 ans, à me mettre moi-même en danger. Les généraux, c'est bien, mais les généraux, ils ne doivent pas rester dans les états-majors à Paris. Et ils doivent être parmi les soldats sur le terrain, et moi, je ne suis pas de nulle part. Moi, je ne suis pas parisien, je suis de Tourcoing, je suis de la vallée de la Lys. Aucune élection n'est jamais gagnée d'avance, et il faut pouvoir aller se battre.
Gérald Darmanin qui répondait à Franck Hanson pour RTL. Puisque nous parlons des ministres et des législatives, Bruno Le Maire, sachez-le, annonce qu'il ne se représentera pas dans le département de l'Eure. J'ai toujours dit que je ne ferai pas plus de 3 mandats, a expliqué le ministre de l'Économie. Je respecte mes promesses. Fin de citation. Après l'accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, il n'y a pas que des grandes figures qui se rebellent. Dans l'Hérault, par exemple, terre socialiste historique, au moins 3 candidats étaient prévus par la Fédération. Eh bien, ils ne comptent absolument pas céder leur place au nom de l'Union Populaire. Patrick Tégéraud.
Oui, d'autant que cette Union populaire ne prévoyait aucun candidat PS dans les 9 circonscriptions de l'Hérault. Ce qui est insupportable pour le président socialiste du département, Kléber Mesquida, il ne trouve pas de mots assez durs pour qualifier les négociateurs PS de cet accord.
Ils ont voulu être les paillassons de l'accord de la gauche. Moi, j'aurais bien aimé que la 11e circonscription de Seine-et-Marne, elle soit donnée à une autre formation politique. Or, si c'est pour négocier et préserver quelques sièges d'apparatchik, je n'en étais pas d'accord dès le départ.
Kléber Mesquida fait allusion à la circonscription du patron du PS, Olivier Faure. Alors sur le terrain, les candidats dissidents porteront l'étiquette majorité départementale, comme Aurélien Manin, qui est pompier dans le civil, mais il a bien l'intention de mettre le feu à son concurrent LFI.
Alors le candidat LFI, il est déclaré depuis le lendemain du second tour, dans la 5e circonscription de l'Hérault. Donc je pense que pour eux, il n'a jamais été question de faire une entente locale.
L'idée d'éventuelles sanctions n'inquiète pas du tout l'organisateur de la fronde, Kléber Mesquida.
Pour moi, peu m'importe ce qu'ils décideront au niveau national, pour moi, je ne les reconnais plus.
Et on annonce même une 4e candidature dissidente ce soir dans la 2e circonscription, celle de Georges Frêche, qui fut le célèbre maire de Montpellier et un non moins célèbre franc-tireur socialiste.
Patrick Tégéraud pour RTL.
Merci, mais non merci. Gardez votre argent. Valérie Pécresse aurait sûrement préféré le soutien de Nicolas Sarkozy.
L'ancienne candidate LR, vous le savez, a lancé un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne. Mais pas question de s'abaisser à accepter le chèque de l'ancien président de la République. Décidément, il y a des choses qui ne passent pas, Marie Mollet.
Oui, en clair, Valérie Pécresse a sa fierté et pas question d'accepter l'aumône de l'ancien chef de l'État. Car en effet, il y a 10 jours, Nicolas Sarkozy a fait un généreux virement à la candidate malheureuse, selon les révélations de Politico confirmées à RTL. Une coquette somme de 2000 euros pour l'aider à rembourser sa dette faramineuse de 5 millions d'euros. Valérie Pécresse avait pioché dans sa cassette personnelle pour financer sa campagne. Et vous le savez, elle n'a pas atteint le seuil des 5% qui permet le remboursement de l'État. Eh bien, elle a aussitôt recrédité cette somme sur le compte de l'ancien président. Hors de question d'accepter de lui un centime après cette campagne dans laquelle il aura toujours refusé de la soutenir. Le camp Pécresse estime même qu'il a saboté sa candidature. Parfois, en politique, l'amour propre vaut donc plus cher que quelques deniers et tant pis pour la dette.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Que se passe-t-il exactement à Mariupol en Ukraine à l'heure où nous parlons ?
Selon Kiev, l'armée russe tente d'anéantir les derniers défenseurs du site Azovstal. Moscou affirme au contraire que les couloirs humanitaires sont en place, que le cessez-le-feu est décrété. Pendant ce temps, les personnes elles, qui fuient la ville et ben, ne partent pas forcément en Ukraine ou à l'étranger. Prenons l'exemple de ces habitants accueillis à Vladivostok, c'est-à-dire à 9000 km de chez elle. On imagine qu'on ne leur a pas trop donné le choix de la destination, Sophie Jousselin.
Oui, vous savez, un décret du gouvernement russe du 12 mars liste le nombre de réfugiés qui peuvent être accueillis dans chaque région, et c'est potentiellement 1350 dans cette région de Vladivostok. Le 21 avril, ce sont donc 308 habitants de Mariupol, des Ukrainiens, mais aussi des citoyens russes, qui sont arrivés dans le village de Vrangel, dans cet extrême Orient russe, hein, juste en face du Japon. Ils vivent actuellement dans un hôtel, ils sont logés et nourris. Des volontaires leur apportent des vêtements, des produits d'hygiène, également des téléphones, car la plupart sont arrivés sans rien, sans argent ou avec de la monnaie ukrainienne, impossible à échanger contre des roubles. Beaucoup n'ont plus de papiers. Il faut dire qu'en général, ils ont eu 5 minutes pour monter dans un bus sans savoir vers quelle destination. Via les réseaux sociaux, hier, une réfugiée m'a expliqué qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer pour eux maintenant. Théoriquement, ils peuvent retourner en Europe, mais comment, puisqu'ils n'ont pas d'argent, pas de papiers. Les volontaires qui les aident sont inquiets. Ils craignent que les autorités forcent les réfugiés ukrainiens à prendre le statut de citoyen russe, ce qui leur permettrait de travailler, de gagner leur vie, mais ils devraient alors rester 3 ans sur place.
Merci beaucoup Sophie Jousselin.
À jamais, du football ?
Bah oui, et à jamais une raison.
À jamais les premiers, c'est pour ça que vous dites ça.
Bah oui, à jamais une raison d'espérer, je voulais vous le faire dire quand même. Et pourquoi pas la finale de la Ligue Europe Conférence ? Marseille accueille ce soir le Feyenoord de Rotterdam pour le match retour à l'aller. On le rappelle, l'OM s'est incliné 3-2. Il faut donc tout donner ce soir dans un vélodrome qui sera chaud bouillant. 5000 supporters du Feyenoord sont attendus. Des incidents, on le rappelle, ont eu lieu dès hier soir. On prend la direction du Vieux-Port. Vous nous attendez, Étienne Baudu. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on est loin de l'ambiance de la nuit dernière. Pour l'instant, tout est calme.
Pour l'instant, tout est calme, effectivement. Les supporters marseillais et néerlandais, ils sont là, hein, sont attablés sur le Vieux-Port. Pour l'instant, la bataille, c'est pastis ou bière. On est loin des quelques échauffourées qui ont émaillé la nuit entre ultras des deux camps. Ils se sont cherchés toute la soirée et se sont parfois trouvés. Mais les policiers, aidés par des officiers de liaison hollandais, étaient bien positionnés et ont pu éviter des affrontements trop violents. Bilan donc 12 interpellés, dont 5 néerlandais. Les supporters normaux, on va dire, devraient, eux, converger cet après-midi vers la fan zone installée sur les plages du Prado. C'est de là-bas que ceux qui ont des billets se rendront en bus au Vélodrome dès 16h. Reste à surveiller les 1000 à 1500 supporters qui n'ont pas de billets. Et ce sont ceux-là qui inquiètent un peu Cédric. Il est arrivé ce matin de Saint-Quentin dans l'Aisne avec ses copains.
Bien sûr que c'est dommage, on vient pas voir des matchs de foot pour ça, mais il faudrait que ça soit plus encadré dès le départ, c'est sûr. Faut penser au match, faut pas penser au côté négatif, mais ça va le faire. On va gagner 3-1 et puis ça va passer tranquille. Non, je suis serein là. Un petit scénario à la Leipzig puisse faire.
Et oui, souvenez-vous, hein, quart de finale de la Ligue Europa en 2018, défait à l'aller, l'OM s'était qualifié à domicile en battant les Allemands 5-2 dans un vélodrome en éruption. Allez, on veut bien signer pour scénario ce soir.
Merci Étienne Baudu. Les salariés n'ont pas le moral, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute. Dans
RTL Midi avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
Ça continue comme ça, on va bouillir des pommes de terre. Ben ouais, on va pas faire des frites. On va juste bouillir à l'eau et on va manger, point c'est tout.
Il y a des choses qu'on gâte les enfants avec, quelques chocolats, quelques fromageries. Maintenant, on se permet pas. On essaye d'économiser ses sous pour acheter l'essentiel.
C'est de plus en plus dur pour tout le monde. Vous le savez, hein, depuis le mois d'octobre, tous les mois, nous scrutons les prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés et dans les mêmes villes. Notre panier RTL coûte en mai 27 euros, c'est-à-dire 1,65 € de plus qu'au mois d'avril. C'est la plus forte hausse depuis cet automne. On n'avait jamais vu une telle augmentation de notre panier. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Certains produits se
Ben oui, parce que
certains produits, on le disait, se distinguent particulièrement, Pierre. Hein.
Oui, absolument. En fait, y a trois produits hein, qui sortent du lot, qui détonnent sur le ticket de caisse par rapport au mois dernier. D'abord, La viande pour le panier, ça veut dire une barquette de 4 steaks hachés, plus 71 centimes en un mois, une augmentation de près de 12%. La conséquence directe de l'explosion du prix des céréales pour nourrir les bêtes et du prix de l'énergie pour faire tourner les tracteurs, les abattoirs, pour approvisionner les industriels aussi. Ça nous amène à notre deuxième produit qui augmente, les œufs, exactement pour les mêmes raisons, avec en plus la grippe aviaire. Comptez 12 centimes de plus pour une boîte de 6 œufs, c'est 6% de hausse. Et puis enfin, en 3, encore et toujours, l'huile de tournesol. Pour moi, c'est le produit emblématique, témoin même, si on peut dire, de la guerre aux portes de l'Europe. L'Ukraine est le premier producteur mondial. Pénurie dans les rayons et inflation foudroyante, 13% en mai. On est passé en gros de 2,60 euros à 2,90 euros pour une bouteille.
Et ça n'augmente pas partout pareil?
Non, parce que si le panier n'augmente que de 55 centimes à Lille, il prend presque 3 euros d'un coup à Marseille. C'est évidemment la hausse la plus importante depuis le mois d'octobre. Sans doute que les augmentations sont passées plus vite là-bas et qu'il y aura peut-être une forme de rattrapage dans les autres villes. Mais quand même, Étienne Baudu est allé au supermarché pour faire réagir les Marseillais sur cette super inflation.
Dans le rayon des pâtes, Jacqueline prend un paquet de spaghettis, bip son code barre, puis le repose avant d'en reprendre un d'une autre marque, un peu plus loin. Depuis quelques mois, Jacqueline a changé ses habitudes d'achat dans cet hypermarché qu'elle fréquente depuis plus de 30 ans.
Je contrôle tout maintenant. Alors je pose, je reprends, je vais voir plus loin si c'est moins cher. Je contrôle tout le prix, monsieur.
Car ici, le paquet de spaghettis a augmenté en 6 mois de 39 centimes. Un peu plus loin, Jacqueline s'arrête devant les steaks hachés. Elle peste devant la flambée des prix. Ce mois-ci, les 3 steaks de la marque distributeur sont passés sans crier gare, de 4,99 euros à 6,99 euros.
Plus de 2 euros, je sais, je connais les prix. Mais surtout sur l'Ukraine, soi-disant l'Ukraine, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec la Russie et l'Ukraine. Bon, ça ne justifie pas toutes ces augmentations. On est bien couillonnés, monsieur, on est à Marseille.
Ça fait 6 mois que l'on expérimente notre panier RTL. Pierre, quand on prend du recul, c'est encore plus impressionnant, forcément.
Oui. Oui, puisque notre panier a augmenté de près de 3,20 euros. Les 13 produits qui coûtaient 24 euros début novembre en coûtent 27 début mai. Le panier n'est pas plus lourd, mais en fait, c'est le porte-monnaie qui s'allège. Ça fait 13% d'augmentation, mais c'est une moyenne. Pour 500 grammes de spaghettis, c'est 19% de plus. Pour un paquet de café, c'est 14%. Et puis même 42%, ça c'est pour l'huile de tournesol dont on parlait tout à l'heure.
Et maintenant, plafond de verre ou pas ?
Alors, j'aurais aimé vous dire oui, ou même vous dire qu'on a fait le plus dur. La réalité, c'est que les prix de l'énergie sont toujours au plus haut, voire augmentent encore. Même chose pour la plupart des matières premières, les emballages aussi. Conséquence, produire coûte plus cher. Donc oui, l'augmentation des prix va se poursuivre. Écoutez ce que disait ce matin Yves Puget, directeur du magazine de la grande consommation LSA. Il était au micro d'Yves Calvi.
Actuellement, il y a sur 60% de notre chiffre d'affaires, des fournisseurs qui demandent qu'on hausse encore les prix de l'ordre de 8%. On veut créer un îlot de stabilité. Déjà, on commence par 120 produits. On garantit aux consommateurs que s'ils bougent, on compensera par l'émission de tickets Leclerc, de cagnottage, d'avantages commerciaux, de manière à ce que dans son budget, il ne soit pas déstabilisé.
Alors là, c'était Michel-Édouard Leclerc qui parlait surtout du bouclier anti-inflation mis en place par son enseigne. Et évidemment, c'est plutôt la stratégie marketing, finalement, Pierre Herbulot, mise en place par toutes les enseignes, bien obligée de faire quelque chose pour les consommateurs.
Ben oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir se démarquer. Les prix augmentent et ils augmentent partout. Et ça va durer. C'est ce que disait Yves Puget, qui était aussi invité d'Yves Calvi ce matin. C'est-à-dire que tous les industriels, les agriculteurs demandent à être payés un petit peu plus parce que tout coûte plus cher. Et les augmentations, les demandes moyennes, c'est 8%. Donc même si finalement les industriels et les grandes surfaces jouent le jeu et prennent un peu sur leur marge, l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois, c'est une certitude. Donc oui, les marques, les enseignes misent sur les promos. Alors il faut savoir une chose, c'est que depuis la loi Egalim de 2018, les promotions dans l'alimentation sont encadrées. Ça veut dire que vous n'aurez jamais plus de 34% de remise sur un produit alimentaire. Donc en fait, finalement, le bon plan, la bonne idée, c'est d'aller chercher les promos sur les produits d'hygiène, le dentifrice, le gel douche, le shampoing. C'est là que vous allez pouvoir essayer de gagner un petit peu d'argent, d'éviter d'en perdre en tout cas, et d'anticiper, d'encaisser un petit peu mieux l'inflation finalement sur le reste des produits.
Merci beaucoup Pierre. Merci. Herbulot, j'avais un peu d'avance, les états d'âme des salariés, c'est maintenant.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Le blues au boulot pour 9 salariés sur 10. Un salarié sur deux envisage de se reconvertir ou de démissionner. Bonjour Jean-Charles Samuelian.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'entreprise Alan, auteur du baromètre du bien-être mental en entreprise. Dites donc, c'est quand même pas super folichon vos chiffres.
Non,
c'est grave. C'est grave, docteur.
On a été assez. On savait qu'il y avait des tendances assez forte d'accélération dans les discussions qu'on avait avec les DRH et les dirigeants d'entreprise. Les chiffres les confirment en effet de manière un peu effrayante. Après, ça se comprend dans un contexte où il y a eu 2 ans de Covid, des bouleversements des méthodes de travail, la guerre en Ukraine en ce moment qui rendent l'inflation dont vous parliez juste avant. Tous ces sujets font que ça crée un milieu qui est assez anxiogène et qui est très poreux en fait avec le monde dans l'entreprise. Et du coup, les salariés ont des attentes en effet hyper fortes de leur entreprise pour parler de santé mentale et pour parler de bien-être mental dans l'entreprise.
Alors, il y a 2 analyses possibles. La première, ce serait de dire que les entreprises sont de plus en plus brutales et dures dans leur management. Et la deuxième analyse, ce serait de dire que les jeunes salariés, effectivement, n'ont pas tout à fait compris ce qu'est le monde de l'entreprise. Et c'est pas forcément l'université, c'est pas l'école, c'est pas la fête et c'est le travail.
J'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option qui est que, je ne sais pas s'ils n'ont pas compris, mais en tout cas qu'ils ont des attentes différentes. Et en effet, la nouvelle génération, dans les chiffres, est encore plus confrontée à ces problèmes de bien-être mental et a encore plus d'attentes vis-à-vis de leur entreprise. Et donc, c'est un enjeu des entreprises pour être capable de recruter. Je ne suis pas sûr que le management se soit durci par rapport à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans.
Il est sans doute même plus à l'écoute qu'il y a 50 ans ou même il y a un siècle. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que les conditions de travail aujourd'hui du salarié sont sans doute meilleures, notamment pour les femmes, disons-le, qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans.
Exactement. Et c'est un peu ce paradoxe où les conditions sont meilleures. On voit que les DRH et les dirigeants sont de plus en plus à l'écoute de ces sujets. Et pour citer Benoît Serre, qui est DRH de L'Oréal France, avec qui on a aussi fait ce baromètre de la santé mentale, il y a en effet des éléments qu'on pensait immuables dans l'organisation du travail qui en fait ne le sont pas. Et le rôle de l'entreprise et les attentes vis-à-vis de l'entreprise sont de plus en plus hautes sur ces sujets de bien-être mental. Donc, en effet, c'est extrêmement difficile, je pense, pour les dirigeants, les DRH, les managers, parce que ils ont l'impression de faire plus. Et pourtant, les attentes sont encore là. Donc, il faut créer des outils qui aident à accompagner et à rendre ce dialogue sur la santé mentale beaucoup plus simple en entreprise, faire tomber les tabous aussi et donner, en effet, une boîte à outils pour qu'on puisse en parler à tous les niveaux.
Jean-Charles Samuelian, est-ce que tous les secteurs sont concernés par ce mal-être? Je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu un luxe? Est-ce que les salariés qui vont à l'usine faire les 3-8 ont le temps de penser à une éventuelle reconversion?
En fait, on s'aperçoit que ça touche vraiment tous les secteurs, mais c'est encore plus, presque encore plus prégnant dans des secteurs, en tout cas comme l'hôtellerie, le café, la restauration, le commerce.
Mais oui, mais parce que c'est dur, l'hôtellerie. L'hôtellerie, la restauration, vous travaillez le samedi, vous travaillez le dimanche, vous êtes en horaire décalé, c'est pas facile. C'est ce que j'entends, moi, j'entends les restaurateurs disent ils ne veulent plus travailler dans des conditions où le week-end, bah, par exemple, on travaille, le soir, la nuit, on travaille, c'est ça que j'entends.
Exactement, je pense que c'est un des vrais vecteurs de fond qui fait qu'il y a encore plus d'attentes dans ce secteur-là, où il y a parmi les salariés qui ont eu des détresses psychologiques, c'est 3 sur 4 ensuite dans l'hôtellerie et la restauration qui envisagent un changement de poste, un changement d'entreprise ou une reconversion. C'est assez énorme.
Mais parce qu'il y a aussi une offre peut-être et il y a de la concurrence dans ce secteur. On sait qu'en ce moment l'offre est énorme dans ce secteur, donc on va peut-être avoir plus de chances de trouver un travail à des horaires qui nous conviennent mieux dans la restauration plutôt que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais une usine dans un territoire où il y a juste une usine avec un travail très très pénible, etc. Mais on va peut-être réfléchir à deux fois avant de quitter ce travail.
Clairement, dans ce cadre-là, je pense que la reconversion ou quitter le travail sera plus difficile, mais ça n'empêche pas que l'entreprise a un rôle hyper important à jouer pour que les salariés ne se retrouvent pas dans ces conditions-là. Et on ne pourra pas changer, on peut changer progressivement le fait que le travail en usine est difficile. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est mettre un encadrement, un accompagnement autour des salariés, même dans des conditions difficiles, pour un, être capable de parler de ça, de signaler, de voir les signaux faibles et d'accompagner avec beaucoup plus d'écoute. On s'aperçoit en fait qu'un des grands problèmes de la santé mentale et du bien-être mental en entreprise, c'est que les gens n'en parlent pas. Et c'est que seulement 7% des salariés interrogés qui se sentent confortables d'en parler avec leur manager, par exemple.
Bah merci en tout cas,
c'est monsieur.
Voilà, c'est passionnant, effectivement. Et tout à l'heure, on va écouter des auditeurs qui pourront intervenir sur ce sujet et nous dire s'ils sont contents de leur entreprise. J'entends aussi souvent qu'on se plaint de la communication dans l'entreprise, que la communication circule mal, que les uns et les autres parfois apprennent des décisions sans avoir été préparés à cette décision. Ils aimeraient être associés. Eh bien, on pourra en parler entre 13h et 14h30. Damien Béchiot, les informations passent entre vous et moi.
Bien sûr, Pascal.
C'est à la réalisation, c'est l'essentiel. Donc la pause, à tout de suite. RTL Midi.